16h30 dans les toilettes des filles.
Juju ? Juju ! Mais t'es là ?
Oui, je suis là.
Ah, ok. Mais pourquoi tu respires dans un sac en papier comme ça ?
Parce que je fais une crise d'angoisse.
Mais reste pas aux toilettes alors, parce que là c'est pire quand même.
Oui, ouais. Mais c'est un lieu de haute féminité, là j'en ai besoin.
Mais enfin, mais c'est Gérard Lanvin qui te fait cet effet là.
Mais évidemment. Trop de virilité, de masculinité, de testostérone, je suis submergée.
Ouais, vous êtes là, ouais, qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites dans les chiottes des filles ?
Mais c'est Juliette, elle a peur de Gérard Lanvin, trop de virilité.
Ah non, mais t'inquiète, Charline est là, ça équilibre.
Je crois qu'elle est amoureuse de Lanvin, tu vois, elle veut pas se l'avouer.
D'accord.
Bon, il va y avoir Pablo aussi,
oui,
Juliette.
Non, bah super, poilu et beauf.
Ouais, c'est pas faux. Ouais.
Tais-toi, Guillaume, mais t'aides pas là. Bon. Bah regarde, il y aura aussi Thomas Croisière.
Ouais. C'est super, repoilu, rebeauf.
Ouais, c'est pas faux non plus. Hein. C'est non, vraiment...
On n'a pas pris les plus délicats, c'est vrai.
Pour pas dire qu'on a clairement pris les plus beaufs là. Hein.
Oui, mais regarde, Juju, Guillaume là, il est là lui.
Mais oui, je suis là.
Ouais, et. Bah, Guillaume, c'est un militant féministe, on le compte chez les filles. Voilà.
Ah, ouais, mais... tu crois ?
Ah non, alors non, merde, alors non, bien sûr que non.
Bah, oh. Guillaume a fait un effort,
non, que dalle, attends, zéro effort. Moi, je suis dans la team Lanvin, la team les spécialistes, ok ? Touche mon gainage. J'ai marche à l'ombre. Merde.
Bon, Juliette, t'es amoureuse de Gérard Lanvin. Alors si tu pouvais le reconnaître, on gagne du temps là. Tu crois ? Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up de la radio publique dont voici la devise du jour. Ne remets pas à demain la deadline du process que tu dois faire ASAP. Voici le sommaire. C'est comme ça qu'on parle aujourd'hui, les amis, dans les entreprises. C'est comme ça. Vu de l'étranger, alors, ces grèves et ces manifs, c'est la France tout crachée, ça, nous dit la presse étrangère qui s'en donne à cœur joie. Les Français sont des râleurs, nous disent-ils.
Mon cher Ludwig, vous connaissez mal les Français. Nous avons le complexe de la liberté, ça date de 89. Nous avons égorgé la moitié de l'Europe au nom de ce principe.
Peut-on compter sur l'État pour protéger la nature ? Si vous pensez que la réponse est non, alors, faut-il privatiser la nature pour la sanctuariser et la sauver.
Ça fait 25 ans, moi, j'ai pas vu de campagne. Je suis obligé d'aller au Castorama, rayon jardinage, pour voir un petit peu de verdure.
Après avoir bien profité des 30 glorieuses, du chômage à un seul chiffre et de la libération sexuelle, ding-dong, il a sonné le temps de payer l'addition pour les baby-boomers et forcément, ça leur fait bizarre. Ben ouais, il y a pas si longtemps, c'était eux à qui leurs parents disaient
« J'aimerais bien que tu cesses de nous considérer ta mère et moi comme des vieux cons indécrottables. »
Et vous l'avez entendu, voici la responsable du casting des chroniqueurs, voici Juliette Arnaud.
Oui, tout à fait, j'ai réuni une équipe de premiers de cordée avec tout d'abord celui dans Enfin aux Anneaux. On connaît le titre de son autobiographie et qui est « Comment survivre en milieu hostile quand on est soi-même le milieu hostile ?» Pablo Mira.
Ah, c'est moi ?
Oui, okay, salut Juju, bonjour Charline, Guillaume. Aujourd'hui, c'est la troisième cérémonie des Miradors, une cérémonie pensée, écrite et réalisée par Jean-Paul Delevoye. D'ailleurs, sachez que je suis moi-même Jean-Paul Delevoye, mais sous un masque. C'est plus facile pour cumuler. À toutes.
Ensuite, nous aurons celui qui souvent nous rappelle la BD du génie des alpages de Fmur, où le berger a affaire à un troupeau autogéré et aux préoccupations métaphysiques, sauf que ses animaux, à lui, sont clairement moins portés sur la philosophie. Guillaume Meurice.
Bonjour à tous. Bah, les temps sont durs. J'ai voulu jouer la carte de l'apaisement. Pour mon bilan de l'année, j'ai contacté Edith, mon esthéticienne préférée, fan de Johnny Hallyday, et réconciliée avec Laetitia.
Du tout. Ben, cette salope, c'est pour écrever.
Toujours pas réconciliée avec Laetitia.
Enfin, le frison roche de par Jupiter. Il tutoie des sommets inconnus au commun des mortels et des pics fascinants à l'oxygène si raréfié que ceci explique sans doute cela. Thomas Croisier.
Oui, vous évoquiez Johnny, mon cher Guillaume. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on me donne l'envin, l'envin d'avoir l'envin.
Oh, ça pue la chronique de qualité, ça.
Eh oui.
C'est formidable.
Voici enfin notre compagnon de route pendant l'heure qu'on va passer ensemble. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs qui vous êtes, de votre voix suave. Vous êtes.
Je suis Gérard Lanvin.
C'est pénible parce qu'il a la classe.
Même sa voix.
Juliette Arnaud.
Bienvenue Gérard Lanvin.
Merci, bonjour.
Oui, on parle de voix aujourd'hui. Parce que pour la première fois de votre carrière, on dit souvent prêter sa voix, mais c'est très réducteur pour ce que vous avez fait avec Le plus beau pays du monde, sous-titre Le Sanctuaire. C'est un magnifique documentaire animalier qui sera diffusé sur France 2 le 24 décembre à 21h. Donc très belle exposition pour ce documentaire qu'il mérite, documentaire de Frédéric Fougéa. Un film qui nous emmène dans les Alpes, en hiver, là où l'hiver dure 8 mois, avec des températures jusqu'à moins 40 oui, oui. degrés.
C'est un endroit pour passer des vacances en ce moment.
Oui, c'est ça. Et qui nous explique et qui nous montre comment les animaux vivent, survivent à cette période, comment ils se nourrissent, comment ils se reproduisent. Juliette Arnaud et moi, nous l'avons vu, nous avons beaucoup aimé. On va vous interroger à ce sujet.
Oui, alors au-delà du récit d'un pays, c'est surtout le récit d'une nation complète qui vit dans les Alpes, enfin en haut des Alpes, une nation qui ne tient pas compte des frontières, hein, puisqu'il y a plusieurs pays européens dans les Alpes, la France, l'Italie, l'Allemagne,
Autriche,
voilà. Même le Liechtenstein et Monaco.
Si on veut.
Voilà. Donc c'est une nation entre monde animal et monde végétal, et une seule voix, la vôtre, puisqu'il n'y a pas d'autre être humain. Enfin, s'il y a un autre être humain, on en parlera tout à l'heure, et on n'entend jamais sa voix, ou pratiquement jamais sa voix, en tout cas pas en langage articulé. Est-ce que vous savez pourquoi le réalisateur, est-ce qu'il vous a dit précisément pourquoi c'était la vôtre de voix qu'il voulait pour cette nation-là ?
Il ne m'a pas dit précisément pourquoi c'était la mienne qu'il voulait. Il m'a simplement demandé de le faire par rapport à une personnalité qui correspond à ce qu'il imagine de quelqu'un qui aime être dehors, à la campagne, avec les éléments, avec entouré d'animaux, etc. Parce que je vis, moi, depuis longtemps, dans ces univers-là. Il savait mon implication là-dedans, et il est venu vers moi. J'ai eu un doute, parce que je suis assez client des documentaires, et à chaque fois que j'ai vu des collègues le faire, c'était vraiment très bien. Sauf que pour faire une voix et s'adapter à une image, s'adapter à de la musique, etc. Et j'avais un petit peu de réticence dans la mesure où c'était un exercice que je connaissais pas. Donc je l'ai rencontré, il m'a rassuré avec simplement de dire voilà, tu viens et on le fait ensemble. Et j'ai donc été aussi sous la direction artistique de Frédéric.
Est-ce que vous... Quand j'ai vu le film, je me suis dit, on voit des plantes aux arbres, des loups aux grenouilles rousses, des papillons aux lynx. Il y a un seul homme, j'en parlais tout à l'heure, un seul homme dont on voit le visage, c'est Mathias le berger. Bon, très clairement, moi j'ai rencontré le prince charmant.
Ouais.
On n'entend jamais le son de sa voix, sauf quand il aboie pour prévenir les loups qu'il est là et qui fait aboyer ses chiens, qui préviennent de vallée en vallée qu'ils sont là, qu'ils vont garder les 650 brebis et qu'il va pas falloir s'approcher, tout ça sans armes. Et je pensais à vous, au portrait qu'on a de vous sur maintenant quelques décennies de carrière. Ça pourrait être vous, ce type qui est quand même assez isolé. Il est marginalisé, Mathias.
Oui, marginalisé. Enfin, il a une passion, c'est d'être ailleurs. C'est
sans être humain.
Voilà, sans être humain, entouré de ses quatre chiens qui font le boulot, quoi. Parce qu'ils font un boulot de... C'est assez impressionnant, parce que c'est vrai que les loups comprennent qu'il ne faut pas venir. Et à partir de là... cet homme a perdu 3 brebis, parce que c'est toujours pareil, il fallait que le loup revienne dans ces régions-là, parce qu'il est capable d'assurer une pérennité à tout ça, il fait partie du contexte écologique, il a son rôle là-dedans.
Oui, mais il est en haut de la chaîne alimentaire.
Bien sûr, mais quand on voit évidemment ces hommes qui ont du bétail, des troupeaux, et qui sont des montagnards, et qui se font dévorer leurs troupeaux par ces loups, il y a un problème qui se pose, et c'est l'adaptation. Il faut trouver les solutions. Ce type a trouvé la solution, c'est-à-dire qu'il a communiqué avec le loup, quoi, en fait.
Sans armes et dangereux.
Sans armes et dangereux.
Ouais, très clairement.
Ouais. Donc en l'occurrence, moi, je ne me situe pas tellement là-dedans par rapport à ce que vous disiez. Je suis considéré comme marginal, mais en fait, c'est mon caractère qui est indépendant. J'aime vivre à la campagne, j'aime pisser dehors le matin. J'aime, voilà, c'est aussi bête que ça. J'ai pas de problème avec les autres.
On peut le faire à Paris aussi, puis c'est dehors le matin, mais
non,
c'est moins bien
non,
vu.
Non, mais je vous assure que non, parce qu'on se fait arrêter.
Ah ouais, c'est,
là, ça commence à être compliqué.
Après, Thomas Croiser a pissé dans le studio, juste avant.
Mais regardez, vous pouvez pisser intérieur. Dans les avions aussi. Dans les avions, dans une bouteille, mais si vous êtes connu, c'est embêtant.
Ouais, c'est Gérard Lanvin disait que prêter sa voix était quelque chose de très réducteur, parce que vous êtes en charge du récit, vous nous faites vivre ce récit. Au tout début du film, il y a déjà un loup, plusieurs loups qui rencontrent un ours. Donc il y a des images, vraiment, on est happé par l'image, ça vibre. Donc vous, est-ce que quand vous racontez, vous oubliez le jeu d'acteur, mais est-ce que réellement vous vous appuyez sur les images pour moduler la voix pour,
Je m'appuie pour sur les regards. Parce que ces animaux, en fait, c'est des êtres vivants, c'est des individualités. Ils ont chacun leur caractère, chacun leur personnalité, et ils sont émouvants quand c'est filmé comme c'est filmé, c'est-à-dire de façon remarquable, on est dans l'œil, on est dans le, on est, chaque animal est un individu avec son propre caractère, sa façon d'être et sa mentalité. Et quand vous regardez ça, vous plongez comme vous avez pu plonger en voyant le truc, fini. Moi, j'ai plongé en le faisant. D'ailleurs, j'ai vu des yeux, j'ai vu cette louve qui attend la mort de son mâle alpha. C'est incroyable. On sent qu'ils peuvent souffrir, aimer. Voilà, c'est des individus à part entière. Et tout ça, c'est l'interaction entre tous. Et tout ça était tellement bien filmé, tellement présent dans les images, qu'il suffisait d'aller... Alors, il y a une musique aussi qui vous permet d'avoir un rythme. Mm-hmm. Et encore une fois, Frédéric qui vous dirige quand même là-dedans. Mais,
Frédéric Fougé, le réalisateur.
Voilà, et l'émotion, elle vous pénètre, hein, elle vous percute assez vite, quoi.
Et elle vous percutera donc sur France 2 le 24 décembre à 21h. C'est un très très beau programme pour réveillonner. Eh oui, effectivement.
Oui, non,
puis toute une équipe, hein, écrit, réalisé avec Guillaume Collas, Samuel Guiton, Marie Allard. Il y a toute une grosse équipe et c'est très très beau. On est
oui, avec
très
des choses
marquées.
Ouais, très bouleversantes et d'autres choses assez drôles. Ouais, je recommande le casse-noir.
Oui, 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 c'est vrai.
Oui, c'est juste.
Et le JPS barbu. Ça, c'est quand même une allure, ce piaf qui est...
C'est d'une laideur incommensurable.
Dis donc, c'est pour ça qu'on a voulu l'éliminer, parce qu'il était moche.
Oui, mais c'est vrai qu'il est fort effrayant.
Oui, mais sa façon de vivre, sa façon d'être, il faut regarder, mais c'est une allure, quoi.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Et la voix de Gérard Lanvin, donc pour ce documentaire qui s'appelle Le Sanctuaire. Ah, c'est quelques notes, ça vous enjaille, hein. C'est Nirvana, bien sûr.
Musclé.
Come as you are.
Take your time, hurry up.
Vous écoutez France Inter. Notre invité, c'est Gérard Lanvin, qui est venu nous présenter un documentaire animalier somptueux qui s'appelle Le Sanctuaire, qui sera diffusé sur France 2 le soir du 24 à 21h. Juliette Arnaud, pour entourer Gérard Lanvin.
Que des poilus. Pablo Mira, Guillaume Rix, c'est à ma croisière.
Gérard Lanvin, on va parler pendant 3 minutes d'actualité. Comme ça, on aura une bonne base pour ensuite discuter.
On savait quand même, par expérience, que le mois de décembre, il y a Noël à la fin.
Ah oui, t'as trouvé ça tout sympa ? T'as trouvé ça tout seul ?
Le journal de presque 17h17.
Je suis épuisé. C'est horriblement fatigant d'être intelligent.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera du nouveau monsieur retraite du gouvernement.
Oui, on parlera donc de gros ratage.
On parlera aussi de la COP25.
Ah, il sera donc question de gros ratage.
Et enfin, on fera un point sur Christophe Barbier.
Ah bah donc c'est une thématique en fait, c'est ratage, d'accord.
Que de la loose,
on y va. Et on commence avec un hommage, Jean-Paul Delevoye, petit ange du cumul des mandats, parti trop tôt, et tout de même parti avec classe et dignité puisqu'il a accusé sa femme de mal avoir rempli sa déclaration de patrimoine.
Saleté de gonzesse.
Tiens le coup Jean-Paul, et fais attention à cet individu perfide qui partage ta vie.
Ouais, fais gaffe, arrivera un jour où elle ne voudra plus laver tes slips.
Allez, on enchaîne avec son remplaçant.
Oui,
donc.
Le nouveau monsieur retraite du gouvernement, Laurent Pietraszewski.
Comment vous dites ?
Laurent Pietraszewski.
On va l'appeler Lolo. On va dire Lolo.
Ouais. Parce que de toute façon, le temps d'apprendre son nom, il aura déjà dégagé.
Oui. Alors, on sait quand même que c'est un ancien spécialiste des ressources humaines chez Auchan.
Ah, donc ouais. Un DRH pour les retraites.
Oui, mais au bien-être animal, il y a un fan de corrida. Donc,
oui, c'est logique.
Voilà,
c'est logique.
On passe après. On enchaîne avec Christophe Barbier, qui est un petit peu notre boussole qui indique le Sud, puisqu'il avait déclaré le matin même de la démission de Delevoye que Delevoye ne partirait pas. Voilà, donc c'est Christophe Lavista, on l'appelle. Alors, écoutons-le ce matin sur BFM avec cette question.
La manifestation d'hier, est-ce que ça fut un échec ou un succès ?
Un échec, clairement.
Voilà, donc c'est une réussite. Hein, à chaque fois, c'est important. Hein.
À chaque fois que vous posez une question sur un choix dans votre vie, voilà. Demandez-vous qu'est-ce que Christophe Barbier aurait dit. On se la pose tous. Voilà. Faites l'inverse, ça marche à chaque fois.
Ça marche à tous les coups. Allez, malaise toujours.
Muriel Pénicaud a annoncé que le SMIC va augmenter de 15 euros par mois en 2020.
Ça va les pauvres ? On est tranquille ? 15 balles ? Putain, ils vont pouvoir s'acheter des sandwichs, peinard quoi, ça va. Putain.
Magie de Noël toujours. Le Père Noël fait sa petite tournée, il est passé par Levallois-Perret et il a donc rencontré Isabelle Balkany.
Alors Père Noël, tu me fais un petit bisou Père Noël.
Tu lui demandais quelque chose au Père Noël, Madame Balkany ?
Ah oui, une belle photo. Je demande une chose au Père Noël. Je lui demande de pouvoir retrouver le plus vite possible l'homme que j'aime depuis 43 ans et que j'admire pour tout ce qu'il a fait dans sa vie.
Oh, c'est mignon. C'est d'une mignonnerie. Bon, alors ça dépendra de la magie de Noël.
Oui, puisque Noël, c'est le prénom du gardien de la cellule de Patrick Balkany.
Oui. États-Unis, à présent, le Congrès américain vient d'octroyer un congé parental payé de 3 mois pour les fonctionnaires.
Ouais, il faut qu'on fasse gaffe parce que si ça continue, les États-Unis vont être plus à gauche que nous.
Ouais, alors attendez, on va vérifier. Est-ce que le congé parental, c'est une réussite ou un échec pour la société, Christophe ?
Un échec, clairement.
Voilà, c'est une réussite. Donc, ok, on enchaîne.
Bonne chose. Allez, international toujours. Mardi, ce sera la journée la plus chaude jamais mesurée en Australie avec 40,9 degrés.
Et ben je sais où Patrick Bruel va passer ses fêtes de Noël.
Culture à présent.
Le chanteur Vegé Dream a été convié au déplacement d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire.
Non, il y a une erreur, je pense.
Non, si, t'es vraiment.
Non, mais c'est ce que vous avez dit, le chanteur Vegé Dream, donc il y a bien une erreur.
Ah oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Oui, poursuivons.
Oui. En Indre-et-Loire, une collégienne a tenté d'assassiner son enseignant en évoquant sa haine des mathématiques.
Et c'est le prof de français de Bouba qui a eu chaud.
Et on termine avec l'actualité de notre invité.
Ben oui, ce documentaire qui s'appelle donc Le Sanctuaire, qui sera diffusé le 24 décembre. Alors Christophe Barbier, ce sera un succès ou un échec ?
Un échec, clairement.
Ok, ça s'annonce bien.
Gros carton d'audience annoncé, Gérard Lanvin. On va aborder ce premier thème en votre compagnie, ainsi qu'avec Juliette, bien sûr, Guillaume qui est toujours là, Pablo Mira, Thomas Croisière. La presse étrangère évoque le besoin irrépressible des Français de descendre dans la rue. Le regard que portent les voisins européens sur la grève générale entretient le cliché du Français râleur. Et que dire de ce titre sur Slate.fr, je cite « Pourquoi c'est toujours le bordel en France ?» Alors que c'est pire ailleurs, la preuve.
Rêvée par les syndicats français en lutte contre le gouvernement Macron, la fameuse convergence des luttes existe au Groland depuis très longtemps. En effet, on se souvient qu'en 1993, les cheminots sont entrés dans une grève dure, très vite rejoints dans leur lutte par les étudiants, puis par les aiguilleurs du ciel, les personnels de santé, les postiers, les enseignants, les employés de bureau, les femmes de ménage, les prostituées, les cadres
et les banquiers. Au bout de quelques semaines, ce sont les militaires, les policiers, les CRS qui ont cessé le travail, rapidement suivi par les députés, les sénateurs et le gouvernement au grand complet. Résultat, depuis 25 ans, absolument tout le monde est en grève au Groenland. Et c'est le bonheur.
Alors, le Courrier international relaye un article du Corriere della Sera, journal italien, qui dit « c'est dans l'ADN des Français ». Alors, moi, je ne sais pas, je suis belge, mais je vous pose la question. Je ne sais pas, parce que ça fait un an aujourd'hui que la Belgique n'a pas de gouvernement. Nous, on est en train de fêter ça, aujourd'hui.
Ça marche.
Vous avez du boulot ici. C'est vrai. On trouve ça tout à fait indigne, mais ça marche. Alors, c'est vrai, c'est dans l'ADN des Français. Vous trouvez que c'est dans le vôtre, Gérard Lanvin, de contredire jusqu'à manifester pour maintenir ses droits, pour maintenir les acquis.
Je pense que le fait de manifester peut être compris, surtout dans des périodes aussi compliquées. Je pense que ça, c'est pas un gouvernement en particulier, c'est plein de gouvernements avant. Vous avez un président, Monsieur Hollande, qui a toutes les solutions là. Il faut lui demander parce que quand il était là, il y en avait pas, mais là, il les a toutes.
C'est vrai. Donc, il était là ce matin sur notre antenne pour le dire.
Mais je lui fais confiance. En cela, à part avoir pris la pluie, j'espère qu'il convaincra ce gouvernement en place, qui a su le virer, et qui, aujourd'hui, essaye de trouver des solutions qui sont, à mon avis, compliquées à trouver, parce que c'est vrai que c'est un peuple, les Français, difficile à diriger. C'est De Gaulle qui disait, je crois, la France est compliquée à diriger avec un pays qui a 52 sortes de fromages. Ouais, comment voulez-vous vous en faire maintenant, beaucoup plus maintenant. Mais en l'occurrence, oui, on est des râleurs, moi le premier, hein, mais aujourd'hui, c'est plus râler, quoi. Aujourd'hui, c'est survivre, aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, alors, c'est commenter tout ça, moi, c'est pas mon rôle parce que j'ai pas de solution, donc à partir de là, oui.
Non, c'est le citoyen Gérard Lanvin qui vous vit aussi parfois à l'étranger, vous voyez ça peut-être d'un peu plus loin aussi.
Si je vais à l'étranger, c'est pour vivre à l'étranger. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire, je vais pas me foutre devant BFM. En plus, vous avez des chaînes d'infos qui sont des chaînes de pub avec des infos, mais pas l'inverse. Donc le problème, non, on voit un pays dans une difficulté évidente, on voit des gens qui souffrent. Et quand ça va même un peu bien pour vous, vous avez du mal à être bien. Voilà, c'est tout bête, parce que vous pensez à ce qui se passe pour les autres, et les autres, vous en faites partie. Voilà, c'est tout un système qui va pas bien.
Est-ce que c'est pas un signe de bonne santé démocratique, de râler ? C'est justement de s'intéresser à ce qui se passe et
tant
de donner
son possible,
avis.
Tant que c'est possible et tant que c'est autorisé, c'est un bon signe de démocratie.
Les pays où ça ne râle pas, c'est compliqué.
Vous aussi, vous êtes un acteur contestataire, on peut dire. Vous aimez contester, mais enfin, je veux dire, parce que vous êtes cohérent, vous avez votre ligne, vous êtes cohérent avec ce que vous êtes. Donc, quand ça vous plaît pas, vous le dites.
Oui, mais ça, je pense que c'est le fait de chacun. Il faut dire ce qu'on pense, sans avoir de honte à dire ce qu'on n'a pas de honte à penser. Voilà, c'est tout bête. C'est pour éviter d'être un faux cul, de regarder les gens, de croire qu'on les aime bien alors qu'on les aime pas vraiment.
Non, moi, j'adore ce que vous faites.
C'est gentil.
Je tiens à dire que dans le contexte actuel, qu'on est en train de vivre et de conflit social, etc., il y a une légère métaphore quand même avec le documentaire animalier, parce que ça nous montre à quel point les animaux sont solidaires et interdépendants quand ils traversent cette période de survie. Donc, je rappelle, dans les Alpes, l'hiver.
C'est l'entraide.
Quand on le voit, il y a vraiment une métaphore très, très évidente.
Oui, sur l'entraide et la coopération.
Bien sûr, quand ça va mal, la vie
ne survivrait pas. Ni animal, ni végétal, s'il n'y avait pas d'entraide, y compris entre les plantes.
Et surtout quand ça va mal.
Vous voulez dire qu'on ne va pas manger Pablo Mira après l'émission ?
Non, pas forcément.
Justement, Gérard Lanvin avec nous. Et à 17h32, c'est l'heure de passer la parole à celui qui risque 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour avoir volé nos cœurs.
C'est la loi.
Pablo, mon petit ange charpentu, aujourd'hui, vous remettez des prix aux personnalités qui ont fait 2019, comme on dit.
Ouais, ma louloute, il est l'heure, il est grand temps, c'est le moment, tant attendu, que tout le monde espère, de l'espérance de tous, depuis très longtemps, que chacun il l'attend, de c'est l'heure cérémonie à des Miradors. Ouais, bah, pardon pour le lancement un peu pénible, mais chaque semaine je vois Nico se remplir comme ça 3 heures d'émission, je trouvais ça pas mal. C'est une réalité. Excusez-moi. Allez, allez, on ouvre cette cérémonie avec deux prix des Miradors dans la catégorie média. Alors d'abord, côté télé, celui de l'émission de l'année qui revient à l'heure des pros sur CNews, oui. Menée d'une main de maître par l'excellent Pascal Pro, une montagne de décibels dans un corps de prof de techno. L'heure des pros, c'est des débats sur l'islam, le voile, la laïcité, sur le réchauffement islamique, et un débat, un seul, sur le poids de la dette. Bon, c'était même pas à l'antenne, c'était à la machine à café entre deux débats sur les musulmans, une émission indispensable. Allez, côté radio, maintenant, c'est un prix collectif, puisqu'il revient à France Inter. France Inter, okay. Première radio de France, encore une fois. Notre station devance dans l'ordre. Je citais RTL, RMC, France Bleu, Radio Guadeloupe, Merguez FM, dont le slogan des tubes et de la grillade. Ensuite, on a Radio Passion Bricolage, Radio Silence aussi, puis on a un autoradio éteint, et enfin, Europe 1. Bravo à tous. À présent, on passe à la catégorie culture, et pour moi, il n'y a même pas de débat. Ce prix d'artiste de l'année, il est pour le taulier, hein, le plus grand des humoristes, Gad Elmaleh. Oubliez les Fary, Pierre-Emmanuel Barré, Christophe Barbier, que sais-je. Non, le patron, c'est Gad. Gad, c'est un artiste qui ne se repose jamais sur ses lauriers. Non, il se repose sur ceux de Jerry Seinfeld. Vivement son prochain plagiat. Spectacle, allez. Allez, c'est le moment de récompenser le travail, le vrai, avec le PDG de l'année, qui est en fait une PDGère. Et c'est la nôtre ici, à Radio France. Sybille Veil, qui remporte ce prix. Alors attention, aucun lien de parenté avec Simone. Le combat est pas le même non plus. Sybille, c'est plutôt des emplois qu'elle veut faire avorter. 300 emplois, plus exactement, qu'elle veut faire avorter, qu'elle doit détruire pour faire des économies. C'est comme ça. N'empêche que ces 300 malheureux, hein, ils ont quand même un luxe que beaucoup de Français n'ont pas. Le luxe de choisir qui, entre Sybille Veil ou la SNCF, leur aura le plus gâché Noël. En plus, Sybille, c'est humainement quelqu'un de bien, je le dis, qui s'intéresse sincèrement à cette maison. Toujours là à poser des questions pour essayer d'en savoir un peu plus. Encore ce midi, je l'ai croisée, elle m'a demandé par où fallait passer au 6e pour éviter les représentants du personnel. Bravo, Sybille. Allez, c'est le moment que vous attendez tous, la catégorie reine, celle de l'homme politique de l'année. Alors, j'ai beaucoup hésité, hein, pendant longtemps. Mon favori, c'était Christophe Castaner, un homme prêt à tout sacrifier pour remplir sa fonction, y compris ses cours de soutien en mathématiques. Écoutez.
Vous savez, être ministre de l'Intérieur, c'est l'être 7 jours sur 4, 24 heures sur 24.
Au moins, c'est clair. C'est comme qui dirait reçu 5 sur 13. Mais finalement, l'homme politique de l'année, c'est qui ? C'est Monsieur Retraite, Jean-Paul Delevoye. Alors là, on l'a perdu en route, mais c'était quand même un responsable hors norme, un véritable bourreau de travail qui pouvait élaborer une réforme des retraites le matin, faire une conférence sur les assurances avec des lobbyistes l'après-midi, et le soir, il trouvait encore l'énergie de livrer des chirachis pour Deliveroo, un prix amplement mérité. Bon, les amis, voici le moment que vous attendez tous, celui de décerner le prix de la personnalité de l'année 2019. Alors je vous préviens tout de suite, c'est pas Greta Thunberg, là, le Robocop de Reykjavik. Non, en vrai, elle a réalisé quoi de sa vie à part énerver Finkielkraut, ça, tout le monde peut le faire pour le coup. Non, la personnalité de l'année, elle se fait de plus en plus rare dans les médias. Écoutez bien, vous allez tout de suite la reconnaître. Écoutez bien. Eh oui, pour moi, la personnalité, c'est le silence, parce qu'avec 10 polémiques par jour et des experts qui racontent n'importe quoi à longueur de temps, je me dis qu'il y a désormais plus que le silence pour nous éviter de tous devenir fous. C'est pourquoi, chers auditeurs, auditrices, il est donc l'heure pour moi de me taire et de vous dire un dernier. Allez, salut.
Ah, merci, beau. Pablo Mira.
Ah, ça dénonce, hein.
Ouais, j'ai l'impression que ça engage. Hein,
en plus, Gérard Lanvin qui adore les prix.
Et qui adore le silence aussi.
C'était fait pour vous. Merci, Pablo Mira. Chronique à revoir et à réécouter si vous l'avez prise en cours. Arnaud est avec nous.
Elle est un imprévu, un doute dans mes déroutes. Elle est ma chose et le machin de mes névroses. Elle est ma bulle d'air comprimée de mes soirées. Dans mes retours, elle est mon détour. Elle a dit, c'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux. Chep, chep, c'est fini. sépare mon obsession sentimentale. Mon incendie, mon petit coin de paradis. Elle a dit, c'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, tchip tchip, c'est fini. Elle a dit, c'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, tchip tchip, c'est fini.
France Inter, Chip Chip, c'est fini. Arnaud, qu'on aura l'occasion de réécouter pendant les vacances, il était notre invité récemment. Notre invité aujourd'hui en direct, c'est Gérard Lanvin, qui vient nous parler du Sanctuaire. Ça s'appelle Le plus beau pays du monde, sous-titre Le Sanctuaire, raconté par Gérard Lanvin, documentaire animalier dans les Alpes l'hiver. Vous allez avoir envie de le voir, ça c'est aussi si, ça va bien. Regardez-le bien au chaud le 24 décembre à 21h sur France 2. On va y revenir avec le sujet qu'on va traiter juste après Guillaume Meurice.
Oui, c'est tendu cette fin d'année, les grèves, les manifs, les plans sociaux et Radio France qui est toujours dirigée par Terminator en tailleur Chanel. Vraiment, non, c'est dur pour tout le monde de partout. Et en France, il nous manque une personnalité forte qui rassure, qui apaise. Et ça tombe bien parce que je la connais évidemment. Cette personnalité, c'est Edith. Alors Edith, pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'était l'esthéticienne de la place Chopin à côté de la maison de la radio. Elle avait deux spécialités, le poil et la géopolitique. Alors, c'était vraiment fabuleux. Alors je dis c'était parce qu'elle a pris sa retraite. Figurez-vous, vous rendez compte, en ce moment elle prend sa retraite privilégiée, putain. Et non seulement elle est en retraite, mais elle a quitté la France. Elle est à Marrakech pour elle qui gueulait contre les Arabes. Voilà, là elle est servie. Alors je l'ai contactée parce que c'est la tradition. Tous les ans, j'aime avoir son ressenti sur l'année qu'on vient de vivre. Alors rassurez-vous, elle se renseigne toujours sur ce qui se passe devant son ancienne boutique.
Il paraît qu'il y a des robes qui dorment devant la boutique parce que je suis pas là. Ma copine, elle m'a dit, bah dis donc, elle fait les courses le matin, elle m'a dit si t'étais là, et puis avant, c'était quand t'étais là, c'était propre, et bien il y en a qui dorment devant ton ancienne boutique. Quoi, tu vois, ça commence.
Ah bah ça commence, la chienlit. Le 16e sans Edith, ça va devenir une ZAD, hein, j'ai l'impression. On est envahi de Rome et le punk à chien, et la maison de la radio, nous, on est en plein milieu. Hein. Si ça se trouve, Léa Salamé, elle va faire grève un jour. Je plaisante, voilà. Ils étaient tous sous la table. Non, j'exagère évidemment, mais la France Inter a peur, calmons-nous. Est-ce que ça se passe bien pour Edith à Marrakech?
Ici, ils ont un gros problème, c'est les Syriens. Ils ont des pancartes.
Ah oui.
Alors, quoi, je dis, cassez-vous, vous n'allez pas nous faire chiant. J'ai dit à Paris, on a les Roms, maintenant les Syriens ici.
Oh, la pauvre Edith, hein, c'est pas vrai. Partout où elle va, il y a des pauvres qui l'emmerdent. C'est pas possible. Elle a la même vie que Macron, en fait, Edith, la pauvre. Bon, alors, comme Edith, elle est quand même sympa, elle a un conseil pour les Syriens.
Donc, elle reste chez eux, bordel. Faut pas ici. Parce qu'ici, quand même, pour venir au Maroc, faut traverser la mer, là-haut. C'est quoi,
c'est
la Méditerranée?
Oui, parce que le Syrien pauvre, ce qu'il aime bien pour aller de Syrie au Maroc, c'est de passer par la Méditerranée. Bah, c'est, voilà, il adore le bateau, hein. C'est un gars qui est fou de navigation. Hein, comme il aime pas marcher non plus, voilà, il monte sur son petit rafio pourri tout troué et en avant, Warzazat. Alors, cette immigration, quand même, d'Edith, pose question. Vous-même, vous avez immigré, Edith?
Ben oui, j'ai immigré, mais c'est pas pareil.
Il y a une bonne et une mauvaise immigration, alors.
C'est différent. Il y a immigration, hein. Faut pas confondre ce qui n'est pas comparable. C'est pas comparable, moi, que je viens ici.
Non, c'est pas comparable. La libre circulation des personnes, c'est que dans un sens, hein, je le rappelle. D'ailleurs, Marrakech accueille plein de Français illustres. Un BHL à une maison, Balkany, Carla Bruni, Jack Lang. Enfin, il y a une thématique quand même, botox et chirurgie esthétique, hein, quand même là-dedans. Voilà. Delajoux, d'ailleurs, propose des forfaits, hein. Ravalement de façade et elle est simple, hein. Ça, c'est quand même assez sympa. Alors, Edith, ce qui nous intéresse, c'est comment elle vit sa nouvelle vie avec les Marocains.
Les rues, ils nettoient pas. Il y a des espèces de bordel. Faut faire, ils brûlent les poubelles, c'est le bordel. Mais par contre, l'avenue Mohamed V et la Mohamed VI, c'est tout beau, tout propre, parce que le roi, il passe par là quand il va visiter.
Ouais, mais faut faire gaffe, faut pas trop dire du mal du roi.
Mais je dis pas du mal du roi. On n'a pas le droit de parler du roi. Ici, je sais pas, mon tour en tôle.
Bah, ça va pas tarder. À mon avis, ça va pas tarder, parce que Edith, c'est pas trop le genre à la boucler s'il y a quelque chose qui lui plaît pas. Hein, elle est au Maroc, mais elle reste française. Hein, on l'a dit tout à l'heure, elle râle. D'ailleurs, est-ce qu'elle suit les grèves en France?
Oui, mais ils ont raison. Mais bien sûr, mais pas trop. Faut aussi faire la part des choses. Pas tous les jours. N'empêche pas les gens d'aller travailler. Tu prends encore les gens en otage. Hein?
Comment faire alors?
Que doit-on faire? Eh ben, tu peux pas manifester. Ben, allez foutre le bordel.
Ah, alors, donc, ouais. Alors, comment faire? Pas de manifestation, mais foutre le bordel. Alors ça, c'est une subtilité à la Edith. Comme je vois, vous n'êtes pas bilingue, à mon avis, hein. Vous parlez pas français, Edith. J'ai continué pour qu'on puisse mieux comprendre.
Ça va durer combien de temps, les gilets jaunes? Ça servait à rien, regarde.
Bah oui, mais alors, faut foutre le bordel ou faut pas foutre le bordel? Je comprends plus.
Si, tant qu'à faire le bordel, faire une guerre civile. Moi, je dis, voilà la solution de tout ceci. Faut faire une guerre civile. Bon, ça va saigner et tout, mais après, ça ira mieux. Après les guerres, tout ça, ça remonte l'économie. Il faut faire une guerre civile.
Voilà, bah, c'est toujours bien de finir l'année sur un appel à la guerre civile.
C'est mieux que Dominique en termes de conseils.
Je trouve que c'était important de finir sur ce message-là. Alors, pour pas en arriver là et pour que le climat social s'apaise, je vous souhaite à toutes et à tous de belles grèves de fin d'année.
Edith De Gaulle, Radio Marrakech, hein, c'est formidable. Non, merci c'est Guillaume Meurice.
Plus en forme depuis qu'elle est à Marrakech.
Oui, on lui souhaite une bonne retraite, Edith. Gérard Lanvin est en notre compagnie. Abordons cet autre sujet qui a trait au documentaire que vous venez nous présenter. L'échec de la COP25 montre qu'on ne peut pas vraiment compter sur les États pour sauver le climat. Et quand l'État n'est pas capable de sauvegarder la nature aussi, est-ce que privatiser la nature devient une solution? Il existe quelques exemples de philanthropes qui ont sauvé des sanctuaires de biodiversité et des exemples de représentants de l'État qui ont tout niqué aussi.
Ah bah tiens, là, monsieur le maire.
Oh, mes enfants, j'ai une nouvelle. Une nouvelle. Venez, mes enfants.
Bonjour, monsieur le maire.
La préfecture vient d'autoriser des grands travaux pour les cours des flots. On va la voir, notre ville nouvelle et notre parc de loisirs. Les bulldozers attaquent demain. L'expansion économique, c'est la richesse de la commune. Aimez, c'est la mort de monde.
C'est Marco Perrin qui joue le maire capitaliste dans La Soupe aux Choux, le film de Jean Giraud avec Fufu, Carmé, Villeray. C'est un article que nous avons trouvé dans le magazine sur internet Ouzbek et Rika, qui explique que devant certaines faillites de l'État, il pose cette question provoque. Faut-il privatiser la nature pour la sauver? Et donne l'exemple d'un créateur de marque de fringues, que je citerai pas, mais qui a racheté plusieurs milliers d'hectares de terre en Argentine et au Chili. Et quand il est mort, sa femme les a rétrocédés à l'État sous forme de parcs nationaux. Donc c'est un des exemples, suite à au titre provoque, il y a un exemple concret qui a l'air de fonctionner jusque-là. Mais je voulais vous demander, et ça a trait aussi au film que vous nous présentez, on en est là, Gérard Lanvin, à se demander s'il faudrait pas des types qui achètent des zones pour être sûr que ce soit préservé.
C'est ce qu'ils font en Patagonie.
Mmh. Exactement, c'est ça.
En Patagonie, vous avez des milliardaires qui commencent à envisager des stations de ski, de sport d'hiver, donc, parce qu'il y a des massifs incroyables. Mmh. Mais il n'y a pas de tire-fesses ni de remontées mécaniques, ça sera en hélicoptère. Donc c'est pour attirer un marché, des clients un petit peu aisés, ouais. Si vous voulez. Et je pense que ça va défoncer le coin.
Donc c'est une mauvaise idée, on se disait bien aussi. Hein.
Oui, ouais. Je pense aussi. Mmh. Après, encore une fois...
Tout dépend de l'intention d'un homme, là. C'est où il faut des hélicos et des pistes.
Turner, je crois, qui a lui, sauvé je ne sais plus combien de bisons.
C'est le patron des fringues de North Face ou Esprit.
Voilà, c'est ça.
Gros...
Alors, oui, il a sauvé du bison. Jusqu'à quand? C'est le problème.
Jusqu'à la femme de chasse au bison qui rachète sa parcelle.
Qui a plus d'argent que lui, qui va le racheter, ou alors le mec va être obligé de rétrocéder. Ouais. Peu importe, on ne sait pas. Donc, j'ai aucun avis là-dessus, franchement.
Sauf que le film dont on parle, Le Sanctuaire, il s'appelle quand même Le Sanctuaire. C'est un des.
C'est un parc naturel.
Ouais, c'est un des.
Il y a un morceau qui est un parc naturel.
Pilier,
celui du Mercantour.
Oui. Oui, mais c'est protégé. Alors, c'est protégé par qui? On ne sait pas.
Bon, c'est l'État, quand même.
Oui, c'est très réglementé.
Oui, c'est l'État. Mais enfin, l'État... Je n'ai pas de possibilité de répondre de façon franche et définitive. Je verrai avec vous ce qui va se passer.
Non plus, voilà. Juliette, une question peut-être sur la propriété.
Oui, on se demandait si vous étiez propriétaire, alors pas du tout d'un appartement ou d'un yacht, mais d'un bout de terre.
D'un yacht, oui, mais j'ai pas eu le moyen d'un appartement.
Vous êtes propriétaire, est-ce que vous avez un morceau de terre à vous?
On a la déclaration d'impôt là.
Bien sûr, j'ai un morceau de terre à moi.
Et quel genre de propriété? Est-ce que vous considérez que les végétaux et les animaux sur votre bout de terre, vous en êtes d'une certaine manière responsable?
Absolument. Mais j'ai ce bout de terre pour ça. J'ai ce bout de terre pour que ce soit à l'identique de ce que je l'ai trouvé. C'est-à-dire, j'ai un bout de terre depuis très longtemps. Ça fait longtemps que j'habite à la campagne, moi. Et quand j'habitais à la campagne, il n'y avait personne. C'est-à-dire que tous les gens du métier qui me disaient « Mais tu te fais pas chier, là-bas » Parce que finalement, je suis assez con pour acheter un truc pour aller me faire chier, vous voyez, pour les gens, quoi. Ouais. Mais, encore une fois, je disais, j'aime aller pisser dehors le matin, j'aime regarder des biches, j'aime regarder, ça passe chez moi, les sangliers, voilà. Et je faisais beaucoup de cheval à l'époque, donc le cheval me faisait découvrir la forêt, parce que c'est le cheval, lui, il voit tout, il entend tout, et il vous avertit. J'ai des chiens, bon, j'ai une vie de mec qui vit évidemment à l'air libre et à la campagne, donc je respecte totalement l'environnement. J'ai toujours été pour la paysannerie, j'ai toujours été à les défendre, à parler d'eux. Mmh. Et je trouve que Guillaume Canet, d'ailleurs, a pris une bonne initiative de faire un film qui s'appelle Au nom de la terre. La preuve, ça fait des millions d'entrées, c'est pas pour rien. Ils sont concernés, ces gens-là, je les aime. C'est des gens indispensables à nos vies. On élève des poules à la campagne, on les mange en ville, il faut penser à ça, quoi. Hein,
voilà. Gérard Lanvin, eh bien, revenons à vous et à votre carrière avec Thomas Croisière.
Oh. On m'appelle
Le Chevalier Blanc, chanson de Gainsbourg et Cosma, est premier grand rôle de votre carrière qui faillit immédiatement y mettre un terme, comme vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine mis fin à celle de réalisateur de votre ami Coluche. J'ai longtemps été fasciné par votre bel organe, jusqu'à ce que j'apprenne que c'était celui d'un autre, Olivier Constantin, qui plus tard chanta Cobra et prêta sa voix à Monsieur Jack dans l'étrange Noël du même nom. Quelle joie, à quelques jours de célébrer l'an 2020, d'être à côté de l'an 20. Quel risque aussi d'être à portée de bras et d'épaules qui justifient à eux seuls l'invention du Marcel. Je vais quand même vous tailler un costard avec mon top 3 cinéma de Gérard. Et ce n'est pas grave si je finis chocolat, car je suis fou du comédien l'an 20.
Je sais pas comment tu fais pour tenir un truc aussi chaud.
Bah, tu vois, je fais comme tout le monde, je me brûle.
Je fais comme tout le monde, je me brûle. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai rejoué à mes béguins adolescents cette scène de Marche à l'ombre, ce moment où vous saisissez la théière brûlante de Sophie Luez au sommet de l'Alpe de sa beauté et la servez sans broncher. Vous êtes à ce moment précis la perfection au masculin. Mon potentiel érotique en peignoir cintré rose étant nettement inférieur au vôtre, sachez que j'ai de mon côté bu davantage de thé que roulé de pelle. Marche à l'ombre, première réalisation de votre ami Michel Blanc, enfin votre ami, il voulait Bernard Giraudot à la base, est un imparable classique aux répliques ciselées qui s'ouvre sur cette formidable chanson de qui les amis ?
Ben oui.
De téléphone, puisqu'il démarre sur New York avec toi. Cohérence quand et tu nous tiens. Je salue au passage la mémoire de Guy Laporte, disparu mercredi dernier, et qui joue le routier qui vous vire de son bahut.
Bon, qu'est-ce que t'essaies de me dire, là ? Eh ben qu'en fait, on croit qu'on est différents, mais on est pareil. On est deux idiots assis sur un tas d'ordures, c'est tout.
Ouais, mais à la différence qu'un idiot riche est un riche, et qu'un idiot pauvre est un idiot.
Un idiot riche est un riche et un idiot pauvre est un idiot. Et dans les spécialistes de Patrice Lecomte, vous n'avez pas prévu de mourir idiot puisque vous préparez un braquage à 3 milliards. Je me souviens que l'affiche du film le spoilait sans complexe. C'était impossible, ils l'ont fait. J'hésitais alors à économiser 20 balles, oui à l'époque une place de cinéma c'était 20 francs, et j'aurais eu tort, car c'est un grand film d'action français, dont les scènes dans les gorges du Verdon comme votre braquage suspendu ont sans doute possible inspiré les missions impossibles de John Woo et de Palma. A-t-on vu depuis Newman et Redford, qui me ressemble tant, un couple plus sexy à l'écran que Giraudot et Lanvin ? La réponse est non.
Tu t'es laissé pousser les cheveux.
Tu n'aimes pas ?
Si.
Un peu indécent, désirer boire. Mais c'est bien. Je suis contente.
Indécent.
Oui, indécent. Une femme qui a aimé un homme, qui les revoit 10 ans après, c'est quelque chose d'indécent.
Et un homme qui a aimé une femme.
Je sais pas.
Et moi, je vais vous dire ce qui est indécent dans cette scène du fils préféré. C'est la tension érotique entre vous et la femme de votre frère. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai comme elle laissé pousser mes cheveux. Dans ce drame familial de Nicole Garcia, vous retrouvez encore Bernard Giraudot. Votre maîtrise absolue du regard triste vous offre le César du meilleur acteur. César que vous n'irez pas chercher comme celui du goût des autres, car vous estimez à juste titre qu'un acteur ne peut briller que grâce à la générosité de son partenaire ou d'un réalisateur. J'ai donc pu acheter ce César sur le bon coin et depuis le soir, seul chez moi, je me prends pour Gérard Lanvin et je remercie l'Académie. Merci l'Académie. Alors oui, je sais,
Chez vous, vous vous dites, et une étrange affaire, Mérine, le prix du danger, le choix des armes. Eh ben, vous savez quoi? Vous avez qu'à l'écrire vous-même, cette chronique, parce que moi, je suis comme Gérard, les jours de pleine lune, le loup chien.
Nous, aujourd'hui, qu'on arrête de me casser les couilles, hein! Arrêtez de me casser les couilles, tout ça!
Voilà. Voilà. Faut pas gonfler Gérard Lanvin quand il vient dans Par Jupiter. C'est la morale de ma chronique. Moi, je la trouve chouette, pas vous? Ah bon?
Très chouette.
Et vive le cinéma!
Merci Thomas Croisière. Vous avez, c'est pas un vrai César, vous avez trouvé ça où?
Ne me posez jamais de questions qui finissent par où, parce que vous savez quelle sera la réponse, qui sera objectivement.
Dans ton cul, exactement. Bien sûr, bah je le savais. Voilà, bah évidemment, je ne sais pas pourquoi je la pose, c'est dans ton cul la réponse, évidemment. À 17h53 sur France Inter. Gérard Lanvin, donc, avec nous. Merci Thomas Croisière.
Mais c'était un plaisir et merci de m'avoir invité le jour où il y a Gérard Lanvin, parce que je suis très ému tout au fond de moi. Voilà. Merci.
On peut vous réécouter en podcast si vous avez pris cette chronique en cours, bien sûr.
Et moi, je vais me réécouter d'ailleurs.
Gérard Lanvin, qui sera d'ailleurs à l'affiche du film de Philippe Guillard en mars 2020, en 2020, comme vous disiez si bien, qui s'appelle Papy Sitter. Gérard Lanvin avec nous. Juliette, un dernier sujet pour Gérard ?
Oui, alors une nouvelle expression est apparue. OK, boomer, qu'on peut traduire par « ta gueule, la gueule » ou « si tu veux, gâteux ». Et qui exprime la défiance de la génération des millénials vis-à-vis des baby-boomers. À cette nouvelle expression, les principaux visaient de répliquer que c'est de l'agisme, à savoir de la discrimination anti-vieux. Somme toute, une bonne vieille et traditionnelle guerre des générations. N'est-ce pas, Hubert Bonisseur de la Batte ?
Vous me plaisez, Dolores. Beaucoup. Vous savez ce que j'aimerais ?
Non.
Comment ça, non, je comprends pas.
Vous ne me plaisez pas, c'est tout.
Mais justement, c'est ça que je ne comprends pas. Expliquez-moi, j'ai quand même un rempart contre la barbarie, un symbole de...
Eh bien voilà, vous êtes vieux, vous êtes prétentieux. Votre vision des femmes est archaïque. Vous êtes un but de vous-même, supérieur, parfois à la limite du racisme. Vous vous habillez mal, vous êtes infantile, vous n'êtes pas drôle. Je m'arrête là.
Je m'habille mal. J'adore, j'adore.
Voilà, c'était Jean Dujardin dans OSS 117. Le film de Michel Hazanavicius.
Je l'ai vu 20 fois, tellement je m'éclate avec ce film. Ouais.
Bah, typiquement, voilà, ce personnage pourrait s'entendre dire
OK boomer.
OK boomer.
OK boomer.
Voilà.
Ouais.
Par une très jeune, une jeune femme. Est-ce que vous aviez déjà entendu cette expression OK boomer?
Non, pas du tout.
Pas du tout?
Non, non.
Ok, donc ça.
Boomer.
Je suis désolée, vous en faites pile poil partie puisque.
Ben, sûrement.
C'est, ouais, c'est la génération entre 1946 et 1964.
En plein dedans.
Donc vous êtes en plein dedans.
Ah ouais, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, ouais, c'est même essentiellement sur les réseaux sociaux.
C'est né sur Twitter, je crois.
Oui, c'est la génération des 15-25, en fait, qu'il a inventé pour dire sa fatigue, sa défiance vis-à-vis de la génération des baby boomers.
Ils ont raison.
Merci.
Non, mais ils ont raison.
Mais que ça fait plaisir. Ben,
On a eu une vie. Super heureuse, on est les 68 tard, tout a été bien et on n'a rien fait pour que ça aille bien pour les autres. Apparemment, on n'a pas été suffisamment conscient des choses. En même temps, on nous l'a pas demandé. quand j'achète de la flotte dans des bouteilles en plastique, ça fait 40 ans, on m'a pas dit attention, un jour ça va chier avec le plastique. Donc moi, j'ai pas cherché des bouteilles en verre, on m'a pas averti. Je ne suis pas responsable de tout ça, mais c'est vrai qu'on fait partie d'une génération qui a été heureuse et qui a laissé le merdier total, quoi.
Bah, d'ailleurs, on avait trouvé dans un article, une interview, vous disiez en 2015, je conseille à ceux qui vont avoir la soixantaine de ne pas flipper. En gros, dans l'interview, vous disiez que vous étiez confortable avec l'âge que vous aviez, que vous avez bien profité et que...
Un peu moins maintenant parce que les douleurs arrivent, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais confortable à l'époque, oui. Là, j'en ai 70 quand même qui arrivent. Et le problème, non, c'est qu'on se calme. On n'en a plus rien à foutre.
Mais ça, c'est plutôt bien.
De grand chose. Bah oui, c'est totalement bien même. C'est pour ça que je disais ça.
Gérard Lanvin, on adorerait jouer avec vous, Gérard, pour terminer cette émission, si vous êtes d'accord.
Vous voulez que les autres hommes sortent?
Donc c'est un sketch qu'on vous propose, parce que dans 11 jours, Patrick Balkany saura s'il peut se présenter ou non au municipal de Levallois. En attendant, de sa prison, il prépare sa campagne. Alors Guillaume va être Patrick Balkany. Vous, bonjour, Gérard, vous êtes le co-détenu de Patrick Balkany.
Co-détenu, oui.
Les autres, ça sera la surprise.
Bon, écoute, mon petit gars, tu sais, une campagne...
Attends, c'est moi que t'appelles mon petit gars?
Oui.
Tu vas redescendre de deux étages tout de suite, là, t'es peut-être le king à Levallois, mais ici, le patron, c'est moi.
Ah bon, t'es là pour quoi, toi?
braquage à main armée.
Et t'as pris combien?
500 bâtons.
Oh, le petit joueur.
T'as dit quoi, là?
Non, rien. Je te disais, tu sais, une campagne, c'est comme une finale, ça se joue pas.
Oui, ça se gagne. Ça va, on la connaît.
Non, j'allais dire, ça se joue pas, ça s'achète.
Ah là, tu m'intéresses, mon coco. Tu me proposes quoi?
Eh ben, j'allais te proposer un poste dans mon équipe.
Bien payé?
Je sais pas, c'est Zaza qui gère ça d'habitude. Je crois qu'il nous reste des aspirateurs et des Magimix.
Tu veux me payer avec la vitrine du juste prix, toi?
Bah, mes administrés sont jamais pleins.
Hein, bon, mais c'est quoi le taf?
Faut convaincre les gens de voter pour moi.
Et tu fais comment, toi?
Tout en finesse. Regarde et prends des notes.
J'ai hâte de voir ça.
Hé, hey, le maton, viens par là.
Oui, monsieur Balkany.
Tout va bien en ce moment?
C'est pas facile, vous savez, avec les grèves, tout ça, je mets 2 heures pour venir tous les jours.
Ouais, hein. Je comprends, ouais.
Et puis on n'a pas eu d'augmentation depuis au moins 3 ans.
Ouais, les temps sont durs pour vous, ouais.
Non, mais rentre-lui dedans.
Non, la finesse, je te dis. Hein, et j'imagine que pendant ce temps-là, le coût de la vie est resté très élevé.
Oui, mon loyer a encore augmenté.
Vous auriez bien besoin d'une petite aide financière.
Mais attendez, monsieur Balkany, vous essayez quoi là? Vous essayez de m'acheter?
Oui.
Allez, te caille pas, mon Patrick, c'est foutu avec elle.
Non, je comprends. Hein. Je comprends pas, d'habitude ça marche.
Mais t'es pas chez toi ici, mon coco. Il faut user de la manière forte pour réussir.
Bon, vas-y, montre-moi alors.
Et toi, l'ours sibérique, approche un peu.
C'est moi?
Ouais, écoute-moi bien. Tu connais mon pote Patrick?
Ouais.
Et tu sais quoi? Tu vas voter pour lui, sinon.
Et sinon, quoi?
Sinon, je vais t'écarter les fesses si large que tu pourras plus y passer la tête.
Ah, bah oui, je vais voter pour lui.
Ah, voilà, mon coco.
Ouais, quand même, ouais, effectivement. Ouais.
Tu sais, quand on a la tête en beurre, faut pas s'approcher du four. Mon gars. Et là, Patrick, t'es rentré dans le four. Hein.
Merci Gérard Lanvin.
Avec plaisir,
de
jouer
le jeu. C'était un plaisir de passer cette heure en votre compagnie.
Merci
et
beaucoup.
Je tiens à dire à nos auditeurs que vous prendrez beaucoup de plaisir le 24 décembre à regarder France 2 à 21h pour ce somptueux documentaire intitulé Le plus beau pays du monde, Le Sanctuaire, avec la voix de Gérard Lanvin, un documentaire réalisé par Frédéric Fougéa avec toute une merveilleuse équipe et des images vraiment somptueuses. Merci Gérard Lanvin.
Merci à vous tous.
Merci à tous les amis et je vous dis à demain.